Si vous avez encore le texte de Galates chapitre 3 sous les yeux, ben cela vous serait utile. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi pas retrouver soit sur le livret, soit sur votre propre Bible, parce que nous sommes donc au chapitre 3 d'une série dans cet épître aux Galates, et nous allons demander à notre Dieu de nous aider à comprendre, de nous éclairer dans pour que nous puissions aussi, à notre tour, mettre en pratique, obéir à ce qu'il nous dit. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, à la prière. Quel privilège, notre Dieu, nous avons d'être encore en liberté pour écouter ta parole, de pouvoir méditer cette parole, et aussi de par l'œuvre de ton esprit, de mettre en pratique cette parole dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, que Christ n'est pas mort en vain pour chacun d'entre nous. Nous voulons donc procéder par la foi. Aide-nous à comprendre ce que cela signifie. Aide-nous à nous encourager les uns les autres, à marcher par l'Esprit. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire, nous te prions. Amen. Est-ce que cela vous arrive parfois d'être gêné par le comportement de quelqu'un qui vous est proche? Peut-être il s'agit d'un parent, si vous êtes adolescent. Je me souviens, moi, adolescent, combien nous étions, moi et mes sœurs, gênés lorsque ma mère venait nous chercher à l'école. Elle portait des chaussettes dépareillées. Quelle honte qu'on avait! Et je pense que mes enfants ont fait expérience semblable. Pour d'autres raisons, vous pouvez poser la question à le seul représentant de ces enfants un peu plus tard. Peut-être c'est un ami proche de longue date qui commence, lorsque vous êtes en train de prendre un verre à deux, à draguer une autre fille. Peut-être c'est un collègue de confiance, de longue date aussi, qui tout d'un coup comprend très très mal la tâche qu'on lui a donnée et qui n'en est pas conscient. Arrêtez ! On a envie d'être dans ce cas-là. Ça suffit ! Fais pas ça, surtout pas ça, je t'en prie. Je te connais depuis un long moment, alors maintenant écoute, il ne faut pas agir de cette manière-là. C'est à ce moment-là où ce proverbe biblique entre en jeu. Proverbe 27:6 nous dit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi s'en trompèrent. » C'est vrai cela, n'est-ce pas? Dire quelque chose dans de telles circonstances, lorsque c'est important, cela prouve notre amour envers la personne. Ne rien dire, c'est d'être complice, avoir quelqu'un pour qui nous avons de l'estime, s'enfoncer encore plus profondément dans son trou. C'est pas beau de faire cela. Alors ici, dans le chapitre 3 du livre de Galates, Paul, et nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas, dans les deux premiers chapitres, il n'est pas silencieux face à ces enjeux-là. Il joue le rôle d'un ami fidèle auprès des jeunes églises de la Galatie, province de l'Empire romain, au 1er siècle. Et le chapitre 3, il y va, verset 1, dès le début. « Ô Galates insensés » ou « stupides » dans une autre traduction. Verset 3 aussi, « Êtes-vous tellement insensés, tellement stupides ? Vous vous comportez de cette manière-là ? » Les enjeux, vous voyez, donc, sont grands. Paul, il le sait. Et donc, il fait exprès de les secouer. Car bien sûr, eux ne se considéraient pas stupides. Ils ignoraient simplement l'ampleur de leur erreur. Alors, quelle est donc leur erreur? La question à la fin du verset 2, expose le problème. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit? Alors, comme James, la semaine dernière, nous a exposé si clairement le problème à Galates, n'était pas une question de comment commencer dans la foi chrétienne. à savoir par la foi seule en Jésus-Christ. Mais c'était plutôt cette question de ce que cette foi en Jésus-Christ exigeait aujourd'hui pour ces Galates. Car des personnes sont apparues avec un discours assez séduisant pour essayer de convaincre ces jeunes chrétiens qui, eux, étaient d'un arrière-plan non-juif, païen, qu'on ne sait rien de toutes les pratiques de la loi de Moïse, que eux, ils devaient commencer, s'ils sont sérieux dans la foi chrétienne, à pratiquer cette loi de l'ancienne alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël, ce qu'on appelle parfois la loi de Moïse, là où il y a des commandements à propos de la circoncision, des règlements alimentaires, comme James nous l'avait dit la semaine dernière, côtelet de porc, ou moule ou saucisse, sabbat qu'il fallait respecter. Et nous pouvons comprendre le poids de cet argument qu'ils avaient, ces personnes-là. Vous vous dites, adorez le seul vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a délivré son peuple de l'esclavage. Alors, ce Dieu, il a donné à son peuple sa loi. Et donc, c'est normal, n'est-ce pas? Même indispensable, on dirait, que les croyants en Jésus-Christ se soumettent également à cette loi que notre Dieu nous a donnée à travers Moïse. C'est la loi de Dieu, après tout, n'est-ce pas? Mais Paul, nous l'avons entendu déjà, intervenait quand il voyait à quel point l'évangile de Jésus-Christ était en jeu dans ce débat. Le chrétien en Christ, qu'il soit d'arrière-plan juif ou non-juif, a trouvé, par l'évangile de Jésus-Christ, ce dont la loi elle-même avait anticipé, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ. Le chapitre 2, verset 16, nous avons lu, « Afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Procédez donc ainsi, cédez à ces faux frères qui demandaient qu'ils respectaient de nouveau la loi de Moïse, ben cela signifie qu'il n'y a pas de perspective de justification lors du dernier jour, que Dieu nous déclare lors du dernier jour sauvés de ce jugement. Car, comme il l'avait dit à la fin du chapitre 2, verset 21, Christ est donc mort pour rien. Bon, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, annonce justement, sur base de la foi en Christ, une justification. Et la vie chrétienne que le chrétien vit, disait l'apôtre Paul à la fin du chapitre 2, est une vie où il est mort à la loi, au régime de la loi, au système dans lequel la loi s'insérait, afin, verset 19 du chapitre 2, de vivre pour Dieu. Et il vit dans la foi au Fils de Dieu qu'il a aimé et qui s'est donné pour lui. Donc voilà pourquoi Paul cherche à être très clair ici là-dessus avec ses Galates. Mais il y a, je crois, un danger que dans l'application de nos prédications dans Galates, encore pour 2-3 semaines, dans les chapitres 2 et 4, qu'il va y avoir de la répétition sur ce point. Est-ce qu'on dit, ben non, ben c'est un peu ennuyant, maintenant j'ai envie de passer à autre chose? Est-ce que c'est ça ce que les Galates ont dit, chapitre 1, 2, déjà? Paul, c'est bon, on a compris, tu sais. Non, il insiste, tant mieux il insiste. Parce que si nous captons bien ceci, si c'est bien enraciné en chacun d'entre nous, alors c'est précieux, c'est important pour notre vie chrétienne. Se tromper ici, ce n'est pas mineur, c'est de faire naufrage de notre foi. Et donc, le Seigneur nous adresse ce matin, il nous dit, ne soyons pas stupides. à l'église de Bruxelles-Woluwe. Ce qui implique que c'est possible de l'être. Peut-être pas exactement de la même façon, comme James nous a aidé à comprendre. C'est-à-dire peut-être pas parce que nous allons nous soumettre de nouveau à la loi de Moïse et tout ce que ça implique. Mais peut-être, oui, de façon similaire. Nous ne devons pas être dupes par la religion, y compris la religion chrétienne, qui laisse place à nos performances. Nous allons y revenir lorsque nous procédons maintenant avec les trois points que Paul élabore. Ici, trois points qui commencent sa défense de ce qu'il a déjà affirmé, que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Il fait appel dans notre texte, donc, de un, à leur expérience, de deux, à Abraham, et de trois, au problème majeur de la malédiction qui tombe sur ceux qui procèdent selon les œuvres de la loi. Et donc, on va voir ces trois choses à tour de rôle. D'abord, ne soyons pas dupes par la religion qui laisse place à nos performances, car, premier point, ce n'est pas ainsi que nous avons commencé si nous sommes croyants en Jésus-Christ. Comment avait-il commencé, les Galates ? Verset 1. Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Oui, ils avaient commencé la foi chrétienne en entendant parler de la mort de Jésus sur la croix. Et comment, continue Paul verset 2, avait-il reçu l'Esprit de Dieu ? Est-ce en pratiquant la loi de Moïse ? Non, en écoutant, dit le texte, le message de Christ avec foi. Verset 4, avez-vous fait tant d'expériences en vain? Ils avaient goûté, donc, grâce à ce message de salut en Jésus-Christ, par la foi, la paix avec Dieu qui donne une espérance de la gloire de Dieu, une espérance qui ne se trompe pas, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Un amour qui révèle que c'est la prestation de Christ qui compte pour notre justification et pas notre propre prestation religieuse. Ils ont été, verset 5, surtout pendant cette période apostolique, témoins des miracles même que l'Esprit de Dieu avait opéré parmi eux. Est-ce qu'ils veulent tourner le dos à cette façon d'avoir commencé? La réception de l'Esprit de Dieu, c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens, croyants en Jésus-Christ. C'est impossible, chers frères et sœurs, d'être chrétien sans que Dieu, par son Esprit, œuvre en nous, nous régénère à la nouveauté de vie, transforme notre compréhension de la bonté de Dieu. C'est comme ça qu'on avait commencé. Verset 9 du chapitre 8 de Romains, Paul dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et je pense, chers amis, nous ne devons pas sous-estimer à quel point la foi chrétienne continue à nos jours à être mal comprise autour de nous. Le présupposé de base d'une personne qui entre dans un lieu religieux comme celui-ci, parce qu'il y a un rassemblement religieux chrétien qui est en train d'avoir lieu, c'est que ce message se résume, qu'on soit pour finir musulman, juif, catholique, protestant, charismatique, pentecôtiste, évangélique, peu importe tout cela, le message se résume, c'est si nous nous mettons à servir et à obéir le Dieu que nous adorons, et donc à faire du bien autour de nous, tout ira bien pour nous devant cette divinité. C'est là le présupposé majeur des autres par rapport à nous. Et nous, dans cette Église, je l'espère, nous avons envie de crier « Non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. » L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus crucifié, nous a libérés d'une telle façon de chercher l'approbation de Dieu. Et donc, une fois que nous avons démarré par l'Esprit, découvert pour nous-mêmes l'amour de Dieu, nous dit Paul ici, pourquoi envisagez-vous de retourner à une façon de vivre qui sera de nouveau selon la performance de l'homme? Ce serait de courir en vain, il ne faut pas faire ça. Alors, laisse-moi vous parler brièvement, j'espère ne pas faire ceci à tout moment à l'aube de mes prédications, mais de ma propre expérience en tant que jeune croyant en Jésus-Christ. Je me suis converti au milieu de mes études en droit à une université inférieure au prédicateur de la semaine dernière, vous vous souvenez. Alors, lorsque j'ai compris la grâce de Dieu envers moi en Christ, j'avais jamais entendu parler de ça avant, qu'il est mort, pas juste de façon générale, mais qu'il est mort pour moi. Alors ça m'a transformé. J'ai voulu tout de suite, bien sûr, dès lors, vivre pour ce Dieu qui m'a aimé en Christ. Et rapidement, j'ai fait la connaissance d'autres jeunes chrétiens qui étaient en quelque sorte des modèles pour moi, à ce quoi une vie consacrée à Dieu ressemblait. C'est normal qu'on fait cela. On commence à fréquenter d'autres chrétiens, on observe comment eux, ils se comportent. Quelqu'un qui lisait la parole de Dieu régulièrement, quelqu'un qui priait de manière disciplinée, quelqu'un qui faisait preuve de patience et de bonté lorsqu'ils étaient affrontés par la difficulté, quelqu'un qui prenait au sérieux les consignes bibliques d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et j'ai voulu faire de même, bien sûr. Mais en ce faisant, en tant que jeune chrétien, je commençais à découvrir jusqu'à quel point il y avait encore des domaines à travailler dans ma vie. Seigneur, par sa lumière, pénétrez un peu plus mon cœur. À quel point il y avait, et je ne dis pas que c'est terminé, les amis, pour que vous ne m'accusiez pas de dire que c'est fini, à quel point il y avait des motivations parfois malsaines qui circulaient toujours en moi. De l'orgueil, de pensée de luxure, de l'agressivité, de paresse ou de l'apitoiement de soi. On peut élargir cette liste. J'aimais, en tant que jeune chrétien, toujours le Christ, mais j'étais de plus en plus déçu avec moi-même. Et je commençais à ne plus vivre dans la joie de connaître Christ, mais sous la crainte de ne plus plaire à Christ. Et je me souviens toujours d'un rendez-vous que j'avais dans la cuisine d'une église en centre-ville de Londres, où il y avait un assistant pasteur à cette époque qui était aussi mono d'un camp chrétien auquel j'ai assisté. Et il m'avait invité là pour qu'on prenne un café ensemble. Et je lui disais un peu ce qui me pesait en tant que jeune chrétien. Et dans la simplicité, il me disait que je ne devais pas oublier, que je ne devais jamais oublier, que notre Dieu ne m'accepte pas sur base de ma prestation chrétienne, mais sur base de celle de Jésus-Christ. Et je me souviens toujours d'être sorti de là, en centre-ville à Londres, et j'avais le cœur de nouveau libéré. Je me promenais vers le métro et je souriais physiquement en disant « Waouh, quelle joie de comprendre cela de nouveau, de réaffirmer que mon salut est sur base de la grâce de Dieu et pas sur base de ma performance devant Dieu. » Mais quel danger alors qu'il y a, d'une certaine mesure bien intentionnée, de retomber sur base de ma propre performance. Non, bien sûr, cela ne me rend pas libre de pécher avec impunité là où Dieu, explicitement sous la nouvelle alliance, nous dit que nous ne devons pas pécher. Quand nous sommes libérés quand même par le Christ pour vivre pour le Christ. Mais ce n'est pas la qualité de mon service qui sert à me donner une confiance devant le Dieu que j'aime. Je l'aime car lui, oh quelle bonne nouvelle, il m'a aimé en premier. C'est une façon, ma façon, de retomber sur la qualité de ma propre performance. Mais ce n'est pas la seule façon. James avait déjà évoqué d'autres façons la semaine dernière. On va en parler encore dans les points à venir. Revenons à un amour authentique pour le Dieu qui nous a justifiés en Christ. Pas pour avoir donc un score dont je suis fier. Ah, je n'ai que eu 2 pensées orgueilleuses cette semaine. Ah, ça doit être pas mal quand même. Non, mais par amour pour le Christ. Transformé par la puissance de son esprit. De désirer donc à vivre pour lui dans la reconnaissance et la dépendance de lui. Encore verset 3, pour terminer ce point. Êtes-vous tellement insensé, stupide, après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair, par une performance humaine quelconque? Il ne faut pas faire ça. Mais deuxièmement, soyons pas dupes par la religion qui laisse place à nos performances, car ce n'est pas ainsi qu'Abraham sert d'exemple. Ici, à partir du verset 6, Paul tourne son regard à l'Ancien Testament même, hein, l'un des piliers de la foi de l'Ancien Testament, à savoir Abraham. Quand les faux frères qui cherchaient donc à imposer la loi de Moïse sur les épaules de ces jeunes chrétiens non-juifs, tenaient comme tout bon juif Abraham comme étant l'un de leurs héros de la foi. Et si cet héros était plutôt d'accord avec Paul et pas avec eux. Car au lieu d'avoir bien étudié leur propre histoire, ils ont sélectionné les parties qui les convenaient. Paul commence en citant Genèse chapitre 15 que nous avons lu, le verset 6. Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Un petit rappel de cette histoire que nous avons lue de la Genèse. Dans le chapitre 15, Abraham se plaint de ne pas avoir d'héritier et conclut que son héritier ne sera que son serviteur, Eliezer. Le Seigneur enjoint donc Abraham à sortir et à regarder toutes les étoiles dans le ciel nocturne. Innombrables, ces étoiles. Vous avez fait ça ? De temps à autre, et vous regardez, c'est clair, vous continuez à voir d'autres étoiles et encore d'autres. Et Dieu promet à Abraham que ses enfants seront aussi nombreux que les étoiles. Alors, comment est-ce qu'il réagissait, Abraham? Il aurait pu rejeter une telle promesse comme étant un peu crédible, étant donné ses circonstances. Mais il a choisi de croire à la promesse du Seigneur. Et nous dit le texte, sa foi lui fut comptée comme justice. Il a été déclaré juste, non pas parce qu'il a obéi au Seigneur, mais parce qu'il lui a fait confiance. Oui, car ce n'est pas après un long palmarès d'obéissance qu'Abraham fut justifié. C'était même dans le récit de la Genèse, avant qu'il soit circoncis, qu'il était justifié. Et donc, que dit Paul par rapport à ça, verset 7 ? Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens, les non-juifs, par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que tous ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Bon, ici, Paul, il lit la bénédiction promise aux nations non-juives que nous trouvons dans les récits de Genèse 12 et 18, il lit cette bénédiction à la foi d'Abraham. Ils deviendront, donc les nations, les païens, fils d'Abraham par la même foi qu'Abraham et pas par une soumission à la loi de Moïse. Ce qui compte pour une relation juste avec le Dieu qui nous a créés, l'eau du dernier jour, pour une assurance donc au jugement final devant le Dieu d'Abraham, ce n'est pas une expression aujourd'hui encore juive, israélite, de cette foi conforme aujourd'hui à la loi de Moïse que Dieu a donnée au peuple d'Israël, avec des spécificités liées à cette alliance ancienne, la circoncision, les lois alimentaires et ainsi de suite. Non, ce qui compte, nous dit Paul, c'est la même foi d'Abraham qui croit les promesses de bénédiction. Et nous, nous devons croire les mêmes promesses de bénédiction que nous obtenons en Jésus-Christ, le salut, le pardon de nos péchés, l'espérance d'une déclaration « Tu es juste à mes yeux » lors du jugement dernier. Alors peut-être pour donner une petite illustration de ce que Paul y fait ici, je peux juste parler brièvement de ce qui arrive parfois dans un pays qui est fort catholique de culture, c'est le cas pour la Belgique. Et je pense, juste à titre d'exemple, à l'épouse de l'un de nos membres qui est farouchement contre, on dirait, le protestantisme, il paraît. Il peut y avoir certaines personnes donc, de cette culture catholique qui pensent être protestants. Bon, vous n'avez pas vraiment de place ici en Belgique. Car cela menace un tout petit peu notre façon unie de voir la religion. Une façon plutôt catholique. Mais vous savez, c'est faux cela, historiquement parlant. Car Léopold Ier, premier roi des Belges, lui, était protestant. C'est parfois utile de glisser ça dans une conversation si vous avez quelqu'un qui vous donne un peu cette impression-là. Il y a toujours eu une place, minoritaire bien entendu, pour le protestantisme en Belgique. De telles personnes donc, et j'avais envie de dire ceci à l'épouse de ce membre en question, ne connaissent pas leur propre histoire en tant que Belge. Et c'est un peu ça ce que Paul il fait ici. L'Ancien Testament, vous voulez être rigoureux là-dessus? Alors vous ignorez qu'Abraham, lui, a été déclaré juste sur base de la foi. Alors je ne dis pas cela pour dire qu'on veut approuver tout ce que Léopold Ier, qui avait une maîtresse, il me semble, avait fait au nom du protestantisme. C'est juste un exemple pour comprendre comment est-ce que Paul pointe de doigt, regardez votre propre histoire. Okay? Pourquoi donc imposer aux chrétiens d'autres cultures non-juives, donc païennes, ce que le peuple d'Israël devait faire comme une expression israélite de la foi? Ce n'est pas ainsi qu'Abraham lui-même a été justifié. Et ce n'est pas ainsi que nous serons justifiés non plus. Ne retombons donc pas vers une vision de la foi qui met l'accent sur la performance humaine. Et à ce stade, de nouveau si vous le permettez, j'aimerais ajouter une autre façon de mettre le principe des œuvres au sein de notre foi, notre pratique de la foi. Aujourd'hui, jusqu'ici, nous n'avons pas développé cette façon-ci qui a une saveur tout à fait moderne, il me semble. Une telle personne qui aborde la foi de cette manière est méfiante, je dirais, à juste titre, en beaucoup de cas, au sujet de l'autorité, au sujet des institutions. L'individu, c'est ce qui compte. Et je vais évaluer tout par rapport à ce que moi, je crois. Et donc, une telle personne est déterminée à avoir ce qu'elle estime être juste et pas simplement de suivre ce que les autres, de ce que l'Église ou de ce que la tradition lui dit. Alors, pour rendre ça plus concret, qu'est-ce que j'ai en tête? Alors, j'ai oublié que j'allais parler d'arriver à l'heure aujourd'hui, donc vous me pardonnez si vous vous sentez visé. Arriver à l'heure pour une réunion, oui. Mais si moi j'estime que c'est nécessaire, vous comprenez? Respecter un engagement, oui. Si j'estime, moi, que je dois le faire, m'engager dans une activité qui demande mon temps, oui, je veux bien. Mais si moi, je veux bien, vous comprenez? Et selon ce que moi, j'estime être raisonnable. Assister au culte le dimanche matin, le rassemblement des croyants, oui. Mais pourvu que cela me convient, ce n'est pas à toi de me juger si je dis non à ces différentes questions posées. Une telle personne, consciente de tout un tas de facteurs qui jouent pour lui, pour elle, des soucis de santé, des émotions peut-être très fragiles, des relations tendues pour une raison ou une autre, des contraintes qui sont propres à la personne, un travail peut-être usant et ainsi de suite. Une telle personne prendra une décision à propos de la mise en pratique concrète de son engagement pour Dieu selon ce qu'elle ou lui décide. Point. Pas quelqu'un d'autre de m'imposer quoi que ce soit. Une telle personne arrive à raisonner un peu ainsi, si vous voulez. Grosso modo, je fais de mon mieux, vous comprenez? J'estime être quand même quelqu'un qui aime Dieu, qui aime son prochain. Ma prestation, elle n'est pas parfaite, mais elle est satisfaisante quand même, non? Oui, peut-être à la lettre, vous pouvez me citer quelques versets du Nouveau Testament où vous me dites que ma vie ne ressemble pas toujours au portrait d'un croyant ordinaire du Nouveau Testament. Mais bon, à l'époque du Nouveau Testament, quand même, il faut comprendre qu'il n'avait pas les mêmes connaissances et les mêmes difficultés de l'être humain d'aujourd'hui. Je suis, vous savez, à l'aise avec ma prestation, car je choisis les termes de ma prestation, moi, pas vous. Et du coup, dans mon monde, moi, j'estime être suffisamment en forme, spirituellement parlant, devant Dieu, devant les hommes. Et de nouveau, si vous permettez, j'appelle cela la sainteté à la carte, que je choisis sur la carte ce qui me convient. Et je justifie cela, car d'insister sur plus de ce que j'ai choisi de faire, ce serait quoi? Ce serait le légalisme. Et donc, au nom d'éviter le légalisme, je le pratique moi-même. Je crée des sous-lois qui me convainquent que je suis en bon ordre avec Dieu. Si je suis donc de temps à autre fâché, cela se justifie, car vous savez, à 80% de mon temps, je suis sympa. Si je suis de temps à autre dans le rassemblement chrétien, ça suffit. C'est à 70%, c'est quand même raisonnable, non? Je suis de temps en temps un peu lâche avec mon téléphone, bah ça, c'est compréhensible, car pour 90% du temps, je regarde ce qui est clean là-dessus. Disons alors, sur 100, si je fais le calcul de tout cela, tu dois avoir au moins 60%, non? Si je suis à l'école, c'est un B ou c'est un B+. C'est déjà pas mal. Ça me convient. C'est vrai? Vraiment? De retomber sur une performance médiocre, c'est encore de croire que ma performance suffit. Elle ne suffit pas. Cela mène à notre point 3, qu'à procéder de la sorte, c'est de retomber sous la malédiction de Dieu. Procéder de la sorte, c'est de retomber sur la malédiction de Dieu. Vous imaginez ce que c'est de tomber sous la malédiction de Dieu au lieu de se baigner dans sa bénédiction et vous cherchez à vivre pour Dieu sur base de votre performance. Procédez ainsi, vous serez maudit. Voici ce que Dieu nous dit. Verset 10. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Là, Paul cite Deutéronome, chapitre 27, le verset 26. C'est un verset qui résume une liste de déclarations, de stipulations de vivre d'une certaine manière que demandait la loi de Moïse, qui entraînait, si on vivait de cette manière-là, le jugement de Dieu. Exemple, verset 16 du Deutéronome 27. « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. » Et tout le peuple dira « Amen. » 17. « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. » Et tout le peuple dira « Amen. » Verset 18. « Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. » Et tout le peuple dira « Amen ». Et ainsi de suite, ça continue pour encore plusieurs versets. Et ce dernier verset, « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique », résume 7 ans, donc le principe de malédiction, sur toute infraction de la loi. Et c'est ainsi que la loi fonctionnait. Bénédiction pour obéissance, malédiction pour la désobéissance. Et comme personne n'est capable d'obéir à toute la loi, la malédiction, c'est ce qui attend ceux qui vivent ainsi aujourd'hui. Car aujourd'hui, ce n'est que le sacrifice de Christ qui pardonne le péché. Le système de sacrifice qu'incorporait la loi de Moïse sur l'ancienne alliance n'y est plus, parce que le sacrifice parfait dont anticipait cette loi est déjà venu. Alors, la loi aujourd'hui ne laisse que malédiction, parce que la bénédiction vient par Christ. Paul cite ensuite le prophète Habacuc, verset 11, « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisque, » et il cite Habacuc, « le juste vivra par la foi. » Il oppose donc ce principe « vivre par la foi » du principe qui se trouve au cœur de la loi. Si c'est à travers la loi qu'on essaie de trouver notre justice. Verset 12, « Oh, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, donc Lévitique 18, verset 5, il cite ici, « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Oui, maintenant que Jésus-Christ est venu, le principe au cœur de la loi ne mène que dans une seule direction, vers la malédiction. Car si tu veux obéir à la loi, tu dois tout obéir. Et cela est voué à l'échec. Car l'homme n'est pas à la hauteur de la loi de Dieu. L'homme n'arrive pas à faire tout ce que la loi prescrit. Mais combien, chers frères et sœurs, de nouveau, c'est encore facile de se convaincre de par mes petites obéissances que nous estimons être un peu plus proches de la volonté de Dieu que mon prochain. Ne pas fumer, ne pas boire, ne pas prendre une voiture, ne pas utiliser trop de plastique, ne pas regarder ou écouter telle ou telle chanson, ne pas acheter des bonbons le dimanche, et ainsi de suite. Grâce à cela, on se sent un peu plus en sécurité quant à notre obéissance. Mais à noter, je pense que James avait remarqué ceci aussi, que souvent une telle approche se focalise sur des domaines moins contraignants que le principe plus global qui se trouve au centre de cette loi, de l'amour pour notre prochain comme pour nous-mêmes. Là, le niveau, c'est trop difficile. Et donc, l'être humain essaye de dire, mais si j'arrive à faire juste ces petites lois plus faciles à déterminer, alors cela ira bien pour moi. En faisant des pratiques moins ambitieuses, on se sent en sécurité du fait de les mettre en pratique. Mais quelle fausse sécurité! Pourquoi, on le dit encore, verset 11, « Nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. » Non, verset 10, « Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Vous vous rendez compte, toute tentative de construire une vie consacrée à Dieu sur base de notre performance religieuse, morale ou autre, au lieu de trouver la bénédiction, le pardon, l'assurance devant Dieu, ben nous place plutôt de nouveau sous la malédiction de notre désobéissance. Et vous voulez faire ça? Ne soyons pas stupides. Cette malédiction mène où? Séparés de Dieu, éternellement. Sous le jugement de Dieu, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Cela est à éviter à tout prix. Et du coup, nous arrivons à notre conclusion. Quand un signe en Israël que quelqu'un avait commis un crime qui méritait la malédiction de Dieu, c'était d'être pendu sur une croix. Sur le bois, une humiliation publique qui faisait signe visible que la malédiction avait lieu pour cette personne-là aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi la croix de Jésus-Christ, Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1, est un scandale pour les Juifs. Car c'est impossible, ils disent, pour le Messie, celui qui est béni par Dieu, qu'il soit maudit. Il venait de Dieu et il est maudit. Mais justement, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, et il cite Deutéronome, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Comment nous avait-il sauvés de la malédiction de la loi? En prenant lui-même, sur lui-même, cette malédiction. Étant devenu malédiction pour nous. Il était donc suspendu sur la croix, car il expérimentait le Seigneur Jésus-Christ, le jugement que notre péché avait mérité, la sainte colère de Dieu que notre péché avait mérité. Et voilà l'unique solution à la malédiction. Voilà comment nous trouvons l'approbation de Dieu. C'est comme ça que nous commençons, comme j'avais commencé dans la foi chrétienne. Et c'est comme ça que nous continuons à placer notre confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voilà comment nous trouvons l'approbation de Dieu par le scandale de la croix, par l'infâme bois dont nous avons déjà chanté sur le mont du Calvaire. Oui, c'est là qu'il mourut, sur cet infâme bois, pour sauver le plus vil des pécheurs. Et comme nous allons chanter dans le dernier chant attaché à la croix, première strophe, « Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. » C'est là où j'expérimente la bénédiction de Dieu. Voilà où nous trouvons encore aujourd'hui la joie et le plaisir, la liberté de vivre pour notre Dieu, avec assurance, avec espérance, avec reconnaissance. Et si vous ne connaissez pas, chers amis ici présents, cette liberté, cette joie de cœur, cet amour, pas imposé, pas parce que vous devez, pas parce que vous avez peur de ce que Dieu dira de vous parce que votre prestation n'est pas suffisamment impressionnante. Alors vous avez besoin de commencer plutôt la foi chrétienne en demandant avec reconnaissance au Seigneur de vous pardonner sur base de la prestation de Christ. Vous pouvez encore faire cela. Ce n'est pas 10 ans d'assistance dans notre Église qui vous qualifie pour se mettre debout et chanter « Attaché à la croix pour moi ». C'est la foi vous-même en Jésus-Christ qui vous permet de chanter « Attaché à la croix pour moi ». Et donc, du coup, de dire que la vie que je vis, comme disait Paul à la fin du chapitre 2, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». On entendra plus là-dessus dans les chapitres 5 et 6, ce que ça signifie, cette vie que je vis pour lui aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit de comprendre que le centre de notre foi, de notre pratique de la foi, il y a Jésus-Christ, sa mort, sa grâce, sa bonté envers nous. Martin Luther, on l'a aussi cité la semaine dernière, a écrit un jour à un ami, « Apprenez à connaître le Christ et sa crucifixion. Apprenez à le chanter et à dire, « Tu as pris sur toi ce qui est à moi et tu m'as donné ce qui est à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas afin que je devienne ce que je n'étais pas. Tu as pris sur toi ce qui est à moi et tu m'as donné ce qui est à toi. Tu es devenu ce que tu n'étais pas afin que je devienne ce que je n'étais pas. » Quel magnifique échange qu'il y a au centre de notre foi. Christ nous donne une justice, la sienne, et il prend la malédiction, la raison pour laquelle il y a une bonne nouvelle à proclamer. C'est ainsi que termine notre texte, verset 14. « Afin que pour les païens, les non-juifs, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » La foi accepte, accueille que cet échange a eu lieu. La foi ne conteste pas. Attends, Jésus, je vais quand même essayer de ma part. Ok? Non, la foi accepte que j'ai échoué, mais accepte que Jésus a réussi. Nous devons alors résister à toute tendance à vouloir minimiser l'importance de cet échange de par notre vie individuelle, de par notre vie collective. Je vous invite à prier et ensuite je pense que nous allons chanter attachés à la croix. Prions ensemble. Quelle profondeur qu'il y a, notre Dieu, de comprendre ce qui a eu lieu ce jour à Golgotha, lorsque Christ était pendu sur une croix. Combien nous te louons que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Merci Seigneur pour cela. Que ici présent, chacun soit capable de placer leur foi en ce Christ mort et ressuscité et de vivre pour le Christ. Non pas toujours dépendant de notre propre performance, mais en étant satisfait, en étant reconnaissant pour la performance de Jésus-Christ. Quelle joie que nous avons donc de chanter ensemble, attachés à la croix pour moi. Que tu sois loué au nom de Jésus, nous te prions. Amen.